Bienvenue dans le monde de Bombo. Un monde de bon et de beau. Ici, on écoute nos frissons, nos palpitations. On se délecte de ces sensations et on œuvre pour les transmettre. Dans cette tribu de passionnés, on danse la vie. On dévore le monde et on croque l'aventure à pleine bouche. Je suis Frédérice Carnière et je suis moi-même une exploratrice de la vie. Mes invités sont des explorateurs du goût, des chercheurs d'or, des chefs d'orchestre, des artistes, des passionnés. À travers mes mots ou les leurs, je vous invite à voyager avec passion. Bienvenue dans le gargouillis de nos cœurs. Dans cet épisode, je t'invite à pousser la porte du bar de Charlie Valentin, Botanical by Alphonse. Accoude-toi avec moi et fais la connaissance de celle qui est à l'œuvre en salle et en coulisses de ce bar namurois, Charlie. Avec un parcours fait d'audace et d'opportunités, elle a écouté sa boussole intérieure pour se diriger vers ce qu'il appelait dans le moment présent. L'aventure, la liberté et l'estrade des bars. Avec Charlie, on a parlé de la petite fille qui rêvait de faire du théâtre, de devenir comédienne. De la jeune femme qui a tout plaqué pour faire de la voile en Irlande. Ensuite, traverser le continent pour l'Australie, jusqu'à revenir à Namur, rencontrer ce beau jeune homme un soir de Nouvel An, pour ne plus le quitter et rêver de leur bar à deux. Aujourd'hui, Charlie et Valentin sont les créateurs de cocktails d'exception, collaborent avec des marques prestigieuses et gèrent deux établissements ou concepts novateurs pour cette capitale wallonne. Parier sur un café en ruine pour s'épanouir, c'est ce qu'ils ont réussi, main dans la main. Je t'invite à déguster les mots de Charlie comme une douce inspiration à la liberté, comme un cocktail enivrant de délicatesse. Bonne écoute. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Ça fait longtemps que je t'ai sur ma liste, une liste de gens passionnés et qui vivent avec leur cœur dans leur métier, dans leur quotidien. Et c'était important pour moi de te parler aujourd'hui. Une de mes premières questions, c'est quelle petite fille étais-tu et quels étaient tes rêves?
Eh bien, écoute, Fred, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, cette petite question sur l'enfance, quel genre de petite fille j'étais? Je pense que j'étais une petite fille assez drôle, très épanouie, très adulte. J'ai grandi avec ma maman qui a juste 20 ans de différence. Avec moi, donc on a un peu grandi ensemble, même si ça reste ma maman. Mm-hmm. Et donc du coup, très très vite, j'étais dans un groupe où elle était la seule à avoir un enfant, avec plein d'adultes autour. Donc j'étais vraiment menée d'activité en activité avec ces adultes. Et donc j'ai, à mon avis, très vite joué cette petite fille adulte, responsable. Mais voilà, je pense que j'étais assez rigolote. J'aimais beaucoup faire la sotte. Il y a pas mal de petites vidéos de moi quand je suis petite où je fais un peu n'importe quoi.
Ton petit clown.
Un petit clown, ouais.
Tu as grandi très vite.
Mm-hmm.
Est-ce que tu remarques une différence par rapport à d'autres gens ou pas forcément Parce que je trouve que le fait de d'être avec des adultes, ça t'a, je sais pas, amené à œuvrer plus vite.
Ouais, je pense qu'il y avait une espèce d'indépendance qui s'est vite fait remarquer, d'avoir aussi envie de faire mes choses à ma façon, de ne pas dépendre de quelqu'un, etc. Et donc du coup, comme j'ai passé quand même quelques années d'abord seule avec ma maman et puis après avec mes frères, on a vraiment ce petit clan ensemble. Et donc c'est vrai que ma maman, c'est un esprit plein de liberté. C'est une âme sauvage, donc son rêve c'était d'avoir un camion et de vivre dans un camion, dans une roulotte que sais-je, et d'être nomade. Donc mm-hmm. C'est pour te donner un peu l'idée de ma maman, toujours très très stricte dans sa vie quotidienne, donc toujours travailler. C'est vraiment au niveau écriture, au niveau c'est vraiment une mastodonte. Elle est assez balèze pour ça. Et donc elle nous a jamais amené sur des chemins un peu hippie, un peu alternatif, puisque justement elle a des enfants et donc elle est très sérieuse. Mais au fond d'elle, elle aspirait à une certaine liberté. Et je pense que ça, c'est ce qu'elle m'a insufflé mm-hmm. directement. Et donc du coup, pour te donner une idée, donc c'est toujours à l'heure au boulot, toujours travailler. Elle travaille pour des juristes, elle a travaillé pour des avocats et elle a travaillé pour les droits de l'homme quand j'étais petite. Mm-hmm. Mais une fois par an, on avait le droit, par exemple, de ne pas aller à l'école. Donc, c'était un peu la bagarre en disant, en fait, la société, on a aussi le droit de temps en temps de dire non. Mmh. Et donc, elle venait nous réveiller. Elle dit, aujourd'hui, personne n'ira nulle part.
Génial.
Et donc, je pense que toute cette, le fait d'avoir grandi avec elle et d'avoir cette barrière, justement, sociétale où il faut vraiment répondre à ce qu'on attend de nous et travailler, forcément. Mmh. Et d'un autre côté, avoir cette envie de liberté créative, etc. Ben, je pense que ça m'a très, très vite donné envie d'avoir mon propre parcours et de pas dépendre de quelqu'un. Voilà. Et puis, je pense aussi que j'ai jamais trop kiffé l'autorité. et que très vite, il faut que je fasse mes trucs, quoi.
Au moins, t'as choisi. Ouais. Et t'es au bon endroit, je crois.
Ouais, ouais, exactement.
Et justement, par rapport à ton héritage, quel héritage gustatif as-tu reçu? Est-ce que c'est par hasard que tu as découvert tes talents pour les shakers et les goûts? Ou bien, est-ce que c'est par amour?
Alors, c'est par amour, parce que la vérité est vraie, et je suis vraiment désolée à toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. J'ai été élevée, et désolée maman aussi, malgré toutes ces qualités, j'ai été élevée à la soupe à l'eau avec du magie, tu vois, magie, là, dedans, énormément pour que ça ait du goût. On a grandi avec des fichtiques qui étaient tellement mal poêlées que la croûte restait dans la poêle, avec des épinards mal cuites, à moitié surgelés. Et des patates. Maman, j'exagère, je suis désolée. Mais donc, c'est une catastrophe. Au niveau gustatif, j'ai pas du tout été gâtée. Mm-hmm. J'ai toujours mangé parce qu'il fallait manger. J'ai toujours aimé manger, mais quand on allait au resto, etc. De l'autre côté, justement, avec mon papa, j'ai quelqu'un qui est vraiment épicurien, gourmand. Et donc, du coup, lui, il m'a beaucoup emmenée, justement, dans des dîners. Mais t'es quand même fracturée en deux. J'ai quand même ma vie quotidienne chez ma maman où justement, ma mère le soir, c'était son combat. Elle dit, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Elle dit, j'ai travaillé 38 heures, j'ai 3 enfants à nourrir. Aucun de nous trois n'a aucune idée, aucun de nous trois ne sait cuisiner. Et donc, de temps en temps, c'est parenthèse chez mon papa où, oui, des bons restaurants, etc. Donc, manger, oui. Être gourmande, oui. Aimer la cuisine, avoir vraiment beaucoup de respect pour ça, oui. Mais alors, du coup, moi, même me faire cuire un œuf, je suis incapable. Mm-hmm. Je préfère mourir de faim plutôt que de me faire des pâtes.
Oui.
Je déteste ça. Mm-hmm. Et c'est une catastrophe. Et donc, du coup, je rencontre Valentin. Valentin, il faut savoir qu'à toute heure de la journée, de la nuit, il adore cuisiner. Il fait des repas qu'on appelle des repas de fond de tiroir, mm-hmm. qui sont extraordinaires. Donc avec 3 bricoles dans un placard, il va te faire un super bon dîner. Il a naturellement, il a cette aisance pour la cuisine, pour le goût, pour les combinaisons. C'est quelqu'un qui est ultra créatif au niveau culinaire et qui a déjà un héritage culinaire. Mmh. Et donc, moi, que je vais le rencontrer, au début, me coupait 4 pommes avec 2 morceaux de chèvre. Et j'étais là, waouh, c'est incroyable ce que tu fais, c'est génial, t'es tellement doué. Et maintenant, il est de fils doué, mais c'est vrai que rétrospectivement, maintenant que je regarde, je me dis, mais en fait, j'étais là, genre, mais ce mec est incroyable. Et en fait, il y a énormément de gens qui ont ces capacités-là. Donc maintenant, évidemment, il a évolué, il est encore plus doué, mais de prime abord, moi, j'étais déjà soufflée, quoi. Mm-hmm. J'étais soufflée, je me dis, waouh, il va faire des pâtes avec de la cacahuète, de la menthe, à l'asiatique. Ce mec est tellement talentueux, c'est ouf, parce que j'ai aucune connaissance, aucune structure culinaire et aucune base culinaire. Mais voilà, je suis très amoureuse de Valentin. Amoureuse de tout ce qu'il fait. Donc voilà. Donc j'étais déjà prête à écrire sur ce que lui faisait, ce qu'il mélangeait, sur ses sirops, sur ses cordiales. J'avais envie d'en parler. J'avais envie de dire, mais enfin, regardez ce qu'il fait. Mais alors de moi faire, incapable.
Non, mais du coup, tu mets son talent en avant et c'est,
ouais. C'est magnifique. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Moi, je suis juge dans des compétitions cocktails maintenant. Ça m'arrive régulièrement. Et donc, du coup, j'ai des gens qui disent, voilà. Par rapport à votre expertise. Donc, du coup, moi, je rigole parce que, oui, forcément, j'ai une expertise qui est plus évoluée qu'une personne standard parce que j'ai un bar à cocktail et que j'ai développé ce goût. Mais ils se rendent pas du tout compte à qui ils parlent. Qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup, ils imaginent que je fais aussi des cocktails. Ils imaginent que moi aussi, je crée des cocktails alors qu'en fait, non, pas du tout.
Non, mais tu les goûtes quand même au quotidien.
Ah oui, j'ai développé mon palais, bien sûr. C'est un entraînement, c'est des exercices, mais je suis pas du tout sur la base créative et je serais incapable de te créer un cocktail, quoi. Voilà, la vérité est vraie.
Oui. Bah, écoute, chacun son petit.
Exactement.
Toi et Valentin êtes à la tête de 3 établissements. Alphonse, votre premier bar ambulant, votre caravane qui a vu voir vos débuts. Aujourd'hui, Botanical et Licorette, quel a été ton parcours et celui avec Valentin pour créer votre petite
entreprise.
Voilà.
Alors, du coup, en gros, du coup, moi, donc je viens de Bruxelles, comme je te l'ai dit. Hein. Je viens de Bruxelles, je suis arrivée ici, je devais avoir 13 ans, 12 ans, je sais pas, je me souviens pas exactement. Puis donc après, je fais Saint-Louis, ici à Namur. J'ai très envie de faire du théâtre quand je suis jeune. Mais ma maman veut absolument que je reste en général. La seule école qui proposait ça, c'était Martin V à Louvain-la-Neuve. Donc là, je fais un examen d'entrée que je réussis. Mais il te propose en fait de rester sur place. Tu vois, tu dois dormir sur place, une espèce de pensionnat, quoi. Je sais pas si c'est pensionnat que ça s'appelle, mais
bon. Résidence.
Exactement. Ce qui me va pas du tout. Moi, je suis très attachée à mon noyau familial. Il est pas question que je dorme en dehors de chez moi, à ce moment-là. Et donc, du coup, je fais mes dernières années d'humanité. Ah oui. D'abord en théâtre, parce que du coup, c'est le conservatoire qui s'est lié à l'Athénée. Et ensuite, en réto, je passe en histoire de l'art. Jusque-là, pas de souci. Je travaille dans les bars depuis toute jeune. Je donne des coups de main. Je travaille dans un skate shop aussi. Donc je suis très très vite autonome au niveau de mes jobs d'étudiant. Et puis alors à 18 ans, je pars je me dis je vais retourner à Bruxelles puisque j'ai encore toute ma famille là-bas. Et je vais me lancer dans les Beaux-Arts à Bruxelles. Donc là de nouveau, je passe l'examen d'entrée, on est genre 5 à passer sur je sais pas combien de personnes. Incroyable, je passe, aucune idée de comment parce que je n'ai aucun talent créatif à ce niveau-là. En tout cas, je suis reçue. Et en fait, je suis hyper impressionnée par tous les artistes qui sont là. C'est les gens qui fument des joints avec des longs cheveux et des grands. Et je me dis, mais en fait, c'est pas du tout pour moi. Je n'ose à peine leur parler. Je suis tétanisée. Enfin, voilà, c'est pas du tout mon truc. Et donc, je pars vite à l'ULB en histoire de l'art. Parce que l'histoire de l'art, ça a toujours été mon dada, quoi. C'est un truc que depuis toute petite, j'ai un oncle archéologue, mon grand-père est antiquaire, mon oncle a fait histoire de l'art, et donc du coup, ça fait vraiment partie aussi du noyau familial. Donc je pars en histoire de l'art, sauf que il faut bien que je travaille, puisque du coup, je viens d'une petite famille et que j'ai toujours travaillé, et donc je dépose mon CV dans une brasserie, un grand bar qui s'appelle le Delirium à Bruxelles.
Bien.
Voilà, catastrophe.
C'est très touristique, oui.
Voilà, catastrophe, évidemment, puisque là, moi, je vais travailler aux absinthes, donc en face, au Floris, jusqu'à 6 heures du matin à l'époque. Hein. Donc, je terminais mon service à 6 heures du matin. Donc, je n'allais pas beaucoup à l'ULB. Mais je travaille beaucoup, je travaille très bien. Ça se passe très bien, je fais pas mal d'argent. Et en fait, je me rends compte, genre, peut-être en avril ou en juin, que je vais pas réussir cette première année à l'ULB, que je viens de sortir de réto de l'Athénée, que je sais pas trop où j'en suis et que à part travailler la nuit, il se passe pas grand chose quoi. Donc du coup, j'ai mon cousin qui à un moment donné vivait avec moi en Belgique, me dit moi en fait chaque été depuis 3 saisons, je pars en Irlande parce qu'avant la crise économique en Irlande, tu pouvais partir là-bas, être logé, nourri, avoir vraiment un beau salaire, faire de l'horeca. Et en plus, c'est un peu l'occasion pour moi d'apprendre l'anglais, parce que je parlais pas anglais. Donc, je pars avec mon cousin et je suis censée rester juste un été et puis après recommencer une première quelque part, que ce soit à l'ULB ou ailleurs, avec peut-être un rythme de travail qui est plus court. Et en fait, catastrophe, je kiffe trop être en Irlande et je ne rentre pas du tout. Je rentre pas pendant 3 ans.
Waouh.
Voilà. Donc...
Qu'est-ce que tu y fais?
Alors, je fais beaucoup de choses. Donc, je suis dans un petit village qui s'appelle Baltimore, dans lequel je suis très, très attachée. Mon cousin y vit toujours. Donc, j'y étais il y a 4 mois avec toute mon équipe. Tommy, que tu connais, oui, bartender, Valentin. Et on a loué un van, on était tous là-bas.
Trop chouette.
Donc, je suis toujours liée à cet endroit. Donc, à Baltimore, en fait, j'ai pas d'argent du tout. Je peux pas en demander à ma famille forcément parce qu'ils en ont pas plus que moi et donc je tombe sur un vieux français qui me dit écoute moi j'ai une école de voile qui s'appelle les Glénans qui est très très connue en France c'est une école ici à Baltimore qui se lie avec la Bretagne et qui propose en fait aux gens d'avoir 50 euros par semaine mais t'es logé, nourri et tu peux prendre les bateaux quand tu veux et commencer à faire du bateau et donc en fait je deviens prof de voile voilà. Donc du coup, Donc je commence à monter de niveau, je deviens prof de voile. Je travaille aussi un peu dans les bars de temps en temps parce que je suis toujours liée à ça. Et pendant l'hiver, quand il n'y a pas de voile, parce que l'hiver en Irlande est quand même assez intense, je vis près de Dublin, dans un petit village qui est universitaire, donc on peut bien faire la fête et tout, c'est trop chouette. Et là, je travaille chez Zara.
Et tu avais quel âge?
Là, je suis partie, je devais avoir 19 ans, je pense. De mes 19 à mes 23, 22, un truc comme ça. Donc, après toutes ces années intenses en Irlande, je me dis, en fait, j'ai quand même pas d'éducation. Et il faut quand même que j'ai un diplôme à un moment donné, quoi. Donc, je me dis, je vais rentrer en Belgique. Je vais aller chez ma mère à Namur, puisqu'elle habite ici maintenant. Je pose mes affaires et je vais directement chez Zara, rue de Fer, ici à côté, en disant, bah voilà, j'ai mon uniforme. Je travaillais encore hier à Dublin. Est-ce que vous me prenez? Et ils me prennent directement.
Ça, c'est un coup... C'est... exceptionnel. Enfin,
bon. Ouais, mais bon, j'avais tout, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et ils cherchaient quelqu'un. Voilà. Ah oui, ok. Donc, du coup, ils me disent, parfait, tu commences demain. Mm-hmm. Donc là, je commence à travailler chez Zara. Je m'inscris à l'Enalux. Enfin, non, ma mère m'inscrit parce que je lui dis que je veux faire des études. Et donc, elle me dit, écoute, l'histoire de l'art, c'est en 5 ans à l'UNIF. Il faut un truc qui soit professionnalisant. Donc, tu vas faire français. Mm-hmm. Quand même assez doué en français en général, peut-être pas toujours pour l'orthographe, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me va bien. Et tu peux faire français langue étrangère, donc donner des cours de français à des gens qui parlent pas français. Je dis très bien, on va faire ça, c'est 3 ans, tac, et après je me casse, je voyage et je peux aller dans le monde entier avec ce diplôme-là, puisque c'est le diplôme de FLUP. Et donc du coup, je me rends compte en fait que ma mère m'a inscrit à l'Enalux, qui n'est pas du tout à Namur. L'Enalux, c'est à Malone. Et donc, moi, en fait, je me retrouve à 23 ans à revenir dans une toute petite ville en Belgique, alors qu'au final, je vis quand même, oui, je vis dans un mini-village en Irlande, mais j'ai quand même Dublin, la moitié du temps, où il se passe quand même plein de choses. Et donc là, je suis un peu malheureuse. Et donc, le matin, bah, je suis à la gare de Namur, je dois prendre le bus pour aller m'enfoncer dans ce truc qui est hyper, pour moi, dépressif, qui est Floref, ce bâtiment austère qui me correspond pas du tout. Je passe ma première sans encombre, pas trop de problèmes. Même assez cool. Et puis la deuxième, je commençais à sentir que ça va pas, que j'ai plus du tout envie d'être là.
J'imagine.
Ouais, voilà, et j'ai envie de voyager. Ça me. Et donc du coup, je pense que c'est en début de troisième ou en fin de deuxième. Je pense que j'ai dû faire 2 ans et demi à l'Enalux. Je suis plus exactement sûre. Enfin bref, je prends un avion et je pars en Australie. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde part en Australie depuis quelques années. Je pense que là, on est en 2013. Tout le monde part en Australie. Tout le monde se fait pas mal de thunes. Tu travailles quelques temps. Moi, je parlais déjà anglais. J'avais 3 ans d'Irlande derrière moi. Donc, c'était très bien. Je pars quelques mois en Australie. Je me fais un peu de sous. Et je me dis, bah, quand je serai prête et que je serai plus sereine et que j'aurai fait un peu attention à moi, bah, je reviendrai. Donc, je fais pas du tout la fête à l'australienne, comme tu peux voir, avec les backpacks, etc. Moi, je vais vraiment m'isoler en pleine cambrousse. Je vais travailler dans des fermes. Où je vais devoir faire à manger parce que j'ai menti sur mon CV. Donc là, les gens vont jamais aussi mal manger de toute leur existence, mais ça, c'est un autre,
peut-être
une autre histoire.
À l'australienne, ça passe. Hein,
mais... Oui, non, je t'assure que non, c'était une catastrophe. Et donc, du coup, là, je rentre en Belgique et après ça, en me disant, bon, maintenant, Chat, qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'as raté l'histoire de l'art parce que t'as travaillé, t'as vagabondé, t'es devenu prof de voile, tu veux faire français en supérieur, tu réussis tes 2 premières années. Et puis de nouveau pas de diplôme, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais rentrer, je vais voir, je vais me poser. Donc je rentre et là je rencontre Valentin le soir même de ma rentrée d'Australie. Donc je vais faire la fête parce que c'était le nouvel an à Bruxelles, donc je suis en jet lag. Voilà, donc ce petit jeune homme me drague, c'est encore une autre histoire. Et très vite je suis aussi autonome, donc du coup je rentre chez ma mère pendant une semaine, mais il me faut un appart, donc je me prends un appartement place du Vieux. Et donc là, je vais de nouveau travailler dans les cafés, donc Place du Vieux, au Poulailler. Je vais travailler au Night and Day, je vais faire plein de trucs. Et en même temps, je me forme en me disant, ben, voilà, t'as pas de diplôme, mais continue à te former. Donc, je vais devenir écrivain public, que j'ai fait ici aussi à Namur. Je vais faire animatrice à l'atelier d'écriture. Je vais faire plein de petites choses qui me font du bien, qui me permettent de rester active. Et en même temps, ben, je travaille en me disant, ben, je trouverai ma voie à un moment donné. Donc du coup, à ce moment-là, avec Valentin, donc je travaille, je me fais des petites formations, etc. C'est super cool. Et je me dis, en fait, Char, réfléchis, tout ce que t'as toujours aimé, c'est l'histoire de l'art. Fais un truc en histoire de l'art, fais un truc en cours du soir. Et donc là, il y a une collaboration entre l'IFAPME à l'IMAL et l'UCL. Oui. Et donc du coup, en 3 ans, bah, tu peux faire anticariat.
Génial.
Et donc, en fait, là, je fais anticariat. Ça se passe très bien. Je réussis sans encombre. Enfin, j'ai un petit papier. Je suis très contente. J'ai un peu fière de moi. Donc, je récupère un peu cette fierté. Et en même temps, en fait, que de travailler au Night and Day, que de faire mes cours en cours du soir, eh ben, en fait, on commence à créer Alphonse.
Ah oui.
Et donc, toutes ces choses que j'ai entreprises, que je n'ai pas terminées, sont cruciales pour moi. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'en fait, De prime abord, quand j'étais plus jeune, ben, j'avais un peu honte de dire que j'avais entrepris tout ça et qu'en fait, c'était soldé par des échecs. Mmh. Alors qu'en fait, pas du tout. Toutes ces choses que j'ai entrepris, que ce soit français pendant 2 ans, ça m'a appris ma structure de mail, ça m'a appris à me coordonner, à communiquer, bien sûr, ouais, voilà. Bon, communiquer au niveau oral, ça a été différent parce que l'Enalux, j'ai eu un épisode assez drama lors d'une présentation devant 60 personnes où la prof m'a tellement comment expliquer, un peu pris en grippe, on va dire, que j'ai perdu l'usage de parler en public pendant des années. Et donc là, maintenant, je suis en train de réapprendre. Mmh. Donc en fait, cette petite fille dont on parlait, qui aimait bien le théâtre, qui parlait très fort, qui montait sur scène dès que je pouvais, dès qu'il y avait un truc, voilà. Et ben ça a été par contre complètement endommagé quand j'étais à l'Enalux, puisque
du coup,
voilà, j'ai pleuré en silence pendant des semaines. Ça a duré où tout le monde me donne une petite tape sur l'épaule en disant, enfin, est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en remets? Et en fait, pendant toutes les premières interviews, tu verras du bar, etc. Mm-hmm. C'est toujours Valentin qui le fait parce que j'ai perdu la capacité de m'exprimer oralement. Mm-hmm. Mais néanmoins, tout le reste, que ce soit l'histoire de l'art, que ce soit l'Enalux pour d'autres choses, au niveau écrit, au niveau développement, au niveau entrepreneuriat, ça m'a énormément construite et c'est ça qui a fait qu'on a Alphonse aujourd'hui.
Oui, ça t'a vraiment menée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi parce que même si tu n'as pas achevé tout ça, tu avais, entre guillemets, ton cœur qui te disait « va là, va là, va là ». Et en fait, peut-être que tu avais déjà fait le tour et voilà, c'est pas grave si on ne finit pas. Pourquoi finalement, enfin, si tu as pris pendant ces 2 ans ou ces quelques expériences ce que tu avais besoin, pourquoi forcément avoir ce papier? Enfin, tu vois.
Ah ouais. C'est parce qu'on grandit comme
oui,
ça.
Oui, oui, ah, oui, oui.
On grandit en disant, ben voilà, et donc tes études, elles en sont où? Ben en fait, j'arrête. Et donc, t'imagines les réunions de famille, les trucs, c'est toujours assez compliqué. Et en fait, moi, il y a un moment donné, c'est vrai que je pense que je vais assez vite dans l'apprentissage. Et en fait, à un moment donné, je stagne assez vite, tu vois. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui vont prendre du temps pour apprendre, qui vont être très, très lents, mais en fait, ils vont continuer cet apprentissage et le faire à leur rythme. Mmh. Moi, je vais aller très vite et à un moment donné, ben, je ne vais pas plus loin. Et je pense que cette angoisse liée au fait de ne pas aller plus loin, quand j'étais plus jeune, en tout cas, me disait, ben, voilà, je suis coincée, il faut que je fasse autre chose. Mmh. Que maintenant, pas. Et c'est ce qui m'a appris aussi avec l'anticarrière après, c'est qu'au final, ben oui, il y a des moments où forcément, tu as des paliers de vitesse, où tu as un apprentissage qui est très rapide, et puis à un moment donné, forcément, ben, il y a des moments où ça se passe moins bien, il y a des catégories aussi qui te plaisent moins, il y a des cours qui te parlent moins. Et donc, du coup, il y a des moments où il faut savoir accepter qu'en fait, tu n'as pas cette vitesse de croisière pour tout. Et donc ça, je suis passée au-dessus. Mais c'est vraiment aussi, je pense, lié à la jeunesse, de dire, ah, en fait, si j'ai pas compris un truc, c'est que c'est fini pour moi, mm-hmm. tu vois.
Oui, tout de suite. Voilà. Pas la fin du monde, mais oui, c'est, et tout de suite, en fait, ça te renvoie tes propres.
Je suis nulle.
Faiblesses, quoi. Oui, oui, voilà.
Exactement. Et en fait, ça, maintenant, de l'avoir vécu, de l'avoir analysé, de l'avoir perçu, ça me permet aussi dans mon entreprise de, quand je suis face à un obstacle, de me dire, eh non, on fuit pas, on va jusqu'au bout. Que ce soit avec des partenaires, avec des distributeurs, avec tout ce que tu veux. Voilà, quand on a quelque chose à un moment donné qui est difficile, ou alors qu'on n'a pas compris, hein, c'est une demande, t'as un événement et tu sais plus exactement ce que tu dois faire, et plutôt que dire ah non, en fait je fais pas parce que je ne sais plus, bah tu vas jusqu'au bout. Mm-hmm. Donc tous ces apprentissages sont réellement importants, ouais, je pense.
Ça t'a construit, je trouve ça hyper inspirant pour tous les ados, même les adultes. Qui, en fait, comme moi, c'est vrai, apprennent très vite, abandonnent très vite parce que on a fait le tour et c'est bon, on peut passer à autre chose. On a appris, emmagasiné tout ce qu'on pouvait. Et oui, il y a d'autres choses, il y a tellement de choses à apprendre, en fait, que oui, ben, il y en a qui ont besoin de plus de temps et du coup, qui finissent, alors que d'autres ne finissent pas. Mm-hmm. Et c'est OK.
Oui, c'est OK, oui.
Mais c'est vrai que
on n'a pas été élevé comme ça, donc c'est compliqué de se dire.
C'est très dur, et j'espère que les générations entendront, ou en tout cas sont en train de vivre différemment, mais voilà, on verra.
Ah ouais, tout à fait, que la finalité, c'est pas ce bout de papier,
oui,
c'est ce que toi, t'as emmagasiné,
ouais,
quoi.
Ouais. C'est très beau. Et est-ce que ça vous arrive, à toi et Valentin, de célébrer votre progression, et de je sais pas, de vraiment mettre un focus sur « allez, on y est arrivé », aujourd'hui, on a ça et voilà, est-ce que ça vous arrive?
Alors, pas vraiment. C'est plutôt C'est pas qu'il nous manque quelque chose, parce que du coup, on est très, je pense qu'on est conscient de nos acquis. Mm-hmm. Mais par contre, on célèbre pas parce que, c'est pas encore, on est toujours sur la route, tu mm-hmm. vois, c'est, on n'est pas encore arrivé là où on veut arriver. Et de prime abord, il n'y avait pas d'objectif. On ne s'était pas dit, bah, tiens, si l'objectif, c'était on voulait un bar.
Oui, oui.
Ça a été l'objectif qui est clair depuis le début. Mais après, la vie change, tu grandis, tu apprends d'autres choses, tu vieillis. Et donc, du coup, là, j'ai pas d'objectif en me disant, bah, tiens, je vais arriver à ça. Mm-hmm. Mais par contre, je suis en mouvement et donc je célèbre pas encore. Voilà. Par contre, on parle souvent du fait que quand on sera vieux et retraité dans notre petit jardin, on se dira, oh, tu te rappelles tout ce qu'on a déjà eu. Ça, c'est des choses que, mm-hmm. qu'on se projette déjà. Mais non, on célèbre pas encore ce qu'on a. On a un peu célébré quand même quand on a eu le 50 meilleurs discovery, en se disant waouh, on a quand même ce petit bar de la rue des Brasseurs à une petite renommée minuscule, hein, mais une petite renommée internationale. Là, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et là, on s'est posé un peu en se disant bravo, well done, on mm-hmm. s'est fait un petit câlin. Mais sinon, pas. C'est comme si on était dans un train, quoi. Oui. Il n'y a pas encore d'arrêt.
Et pourtant, ouais. Il y a déjà beaucoup à célébrer, je crois.
Ouais. C'est vrai, mais après, quand c'est ta propre vie, tu ne célèbres pas.
Oui, non. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a toujours des objectifs plus grands ou qu'on attend un. Je ne sais même pas quoi, en fait, mais.
Ouais.
Je trouve que vous pouvez déjà.
Ouais, c'est clair.
Bien célébrer et. Enfin, bon, être fier, en tout cas.
Après, c'est aussi la machine infernale de l'Oreca en Belgique, dans le sens que on a créé un monstre.
Oui.
Dans le sens où c'est notre bébé, hein, mais Alphonse, c'est notre bébé, mais cette demande permanente, cette pression permanente, c'est un monstre qui a tout le temps faim. Mm-hmm. Et donc, tu t'arrêteras jamais. Le matin, tu te lèves, c'est les prépas, c'est les mails, c'est les demandes d'offres, c'est des toutes petites choses, mais c'est sans arrêt. Donc, c'est un ogre. Célébrer notre parcours, oui, mais en même temps, on se dit, mais enfin, c'est un ogre qui est lancé à vive allure mm-hmm. et qu'on a du mal à rassasier, quoi.
Oui.
En tout cas, il n'est pas rassasié tant que nous, on n'est pas actifs, quoi.
Et il va nous engloutir un petit peu.
Ouais, il y a des jours où il nous engloutit beaucoup et c'est difficile de pouvoir dire stop parce que comme on est indépendant, tu n'as pas l'occasion de dire stop. Et de toute façon, t'as tellement d'enveloppes de choses à payer derrière que t'es obligé, de toute façon, de continuer à faire grandir le monstre.
Oui, oui.
Donc voilà. Donc c'est ce qu'on aime le plus au monde, c'est notre petite entreprise. J'en suis terriblement fière. Mais la quantité de travail est assourdissante, quoi. Mm-hmm.
J'imagine même pas.
Alors, j'ai pas de banque et une multinationale.
Oui, non, voilà. Non.
Le seul truc, c'est que comme on est une petite entreprise avec une dizaine de personnes et qu'on est que deux, on doit savoir tout faire à tout moment. Et donc, il n'y a pas d'heure de boulot. C'est de l'Oreca. Donc, déjà, rien que parce que c'est de l'Oreca, ça demande une organisation qui est complètement différente de n'importe quelle autre entreprise. Et donc, il n'y a pas de professionnel derrière. Dans le sens où t'as une RH, t'as une chargée de com, t'as un prep man pour faire les préparations. Non, c'est tout divisé en deux personnes humaines avec 24 heures sur une journée. Et donc le fait que les petites entreprises ne soient pas du tout aidées et justement qu'on soit ponctionné sans arrêt fait qu'en fait ça fatigue énormément.
Et ça, c'est vrai que c'est la face cachée qu'on ne voit pas, qu'on n'imagine pas en tant que consommateur, je trouve, et client. Alors que, enfin, on en parle beaucoup, je trouve, en ce moment, l'Oreca souffre et c'est maintenant qu'il faut les soutenir.
Ouais, tout à fait, ouais. Il y a eu pas mal d'émissions, etc., qu'il faut absolument regarder parce que les gens se rendent pas compte. Moi, il y a plein de gens qui me disent, ah, mais oui, je vous ai vu, vous étiez en voyage. Et je dis, oui, on était en voyage, on a travaillé 3 jours. Pendant que je travaille, je dois mettre du staff à ma place. On a toutes les préps. On a quand même des concepts qui demandent beaucoup d'énergie. Bon, on l'a choisi, hein. Mais, donc, du coup, les gens n'imaginent pas du tout ce qui se passe derrière l'Oreca. Donc, c'est vraiment important d'en parler, quoi.
Mmh. Et comment Alphonse est né, d'abord en tant que bar ambulant et puis en physique? Comment vous avez trouvé le lieu? Je sais bien que c'est une histoire assez folle de travaux, de tout ça, d'autorisation, je crois même. Mmh. Si tu veux nous raconter, c'est avec grand plaisir.
Mais donc, du coup, en gros, Valentin et moi, on rêve d'avoir un bar directement dès qu'on se rencontre. Tout de suite, c'est on fait des logos, des business plans. Tiens, oui, un jour j'aurai ça. Moi, j'ai retrouvé des textes il y a pas très longtemps qui sont assez marrants. C'est des textes que j'avais un blog quand j'étais en Australie où je racontais toutes mes péripéties, très mal écrit d'ailleurs, mais j'aimais beaucoup. Et donc du coup, j'ai écrit des textes où je rêve d'avoir ce bar à Bruxelles ou ce restaurant où il y a un mec à moustache qui fait à manger derrière. Enfin, c'est ouf parce que c'est
dingue, oui.
Et j'ai complètement oublié ça quand j'ai rencontré Valentin où je lui ai demandé de porter une moustache. Je n'aimais pas plus la moustache que ça. Mais je veux dire, voilà, il y a déjà pas mal de choses qui étaient préécrites, c'est assez fun. Et donc, Valentin et moi, on crée le projet le plus sérieux qu'on a eu, ça s'appelait Charlie Enemy. C'était à Namur, c'est pas la rue Saint-Nicolas, c'est rue de Bas de la Place. Et donc, du coup, c'était un petit bar où, justement, parce que moi, je faisais écrivain public, je voulais mettre un bureau et je voulais être la plume des gens du quartier quand tu connais pas bien le français, quand tu comprends pas des documents administratifs, t'as un problème avec une facture Luminus que tu comprends pas, ou t'as tes enfants qui sont scolarisés et tu comprends pas leur bulletin. Je voulais vraiment mettre ma plume au service des gens, et ce qui n'aurait pas pu fonctionner parce qu'il faut avoir une société économique qui fonctionne, mais bon, c'était un peu dans le rêve. Et de proposer plein de cidres. Donc, Charlie Enemy, c'était que des pots de confiture différents, de volumes différents, récupérés et avec plein de cidres différents et des œufs durs dans des pickles sur le comptoir, tu sais, quand tu manges des œufs à l'ancienne, tu vois. Exactement. Et donc, du coup, ça, c'était toute l'idée de Charlie Enemy. Et donc, on avait construit ça. Ma maman, elle est aussi comptable de formation. Et donc du coup, on avait fait un business plan avec elle, j'étais à voir les banques. Les banques nous ont ri au nez. On est reparti bredouille. Tant mieux d'ailleurs au final. Et donc un soir, Valentin est rentré à la maison avec une caravane qu'il a achetée en Hollande. Donc il est parti avec son père en Hollande acheter une caravane. À ce moment-là, il n'y a pas du tout de food truck ni quoi que ce soit. C'est tout début. Hein. Donc on voit des food trucks de temps en temps, mais il n'y a pas du tout de caravane à cocktail, ça n'existe pas. Il y en a une, je pense, qui s'appelle Tom Collins, et qui est australienne, qu'on arrive à trouver un peu sur le début d'Instagram. Valentin revient avec cette caravane en disant, bah voilà, j'ai trouvé la solution. On peut pas avoir de prêt, on peut pas avoir de bar, on n'a pas d'argent. J'ai dépensé nos 500 euros, que 500 euros, sur notre compte épargne. Et j'ai acheté une caravane. Il dit, je vais faire un trou dedans, je vais faire un bar. Mais il faut imaginer qu'elle a des petites couchettes, elle a des rideaux, elle est trop mime, cette caravane. Et le monsieur, en plus, fait promettre à Valentin, le monsieur qui avait la caravane, de ne pas l'abîmer, parce que c'est la caravane de son papa, avec lequel il a énormément de souvenirs de camping en Hollande, tu sais, cette religion de la caravane hollandaise. Quoi. Et donc, Valentin jure... alors qu'il sait très bien qu'il va la détruire, mais voilà, pour lui donner une nouvelle vie. Pendant un mois, je me souviens que Valentin est assis avec son papa devant cette caravane à bouge et qu'il regarde en se disant bah, « quand on fait le trou pour le bar, donc on n'a pas intérêt à se planter ».
Et comment on fait, ouais.
Voilà, heureusement que son papa, c'est vraiment c'est lui qui a fait le botin, hein, Eli Corrette. Ah. Donc c'est la personne créative derrière tout ça. Et donc du coup, c'est plutôt l'artisanat derrière tout ça. Et donc, du coup, on va, en fait, faire un bar. Valentin va faire des cocktails dedans avec moi. Moi, je vais faire des photos, je vais lancer un blog que j'avais déjà, où je racontais ben, justement toutes ces recettes dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu vois, où je mettais, ben voilà, que Valentin adorait faire des recettes et tout ça. Donc ça, je vais commencer à adapter ce nouveau blog et je vais l'appeler Alphonse and Stuff, puisque la caravane, on va l'appeler Alphonse.
Qui existe toujours, ce blog.
Ouais. Enfin, maintenant, il s'appelle... C'est alphonse.be, c'est un site internet. Et donc, du coup, on va, en fait, travailler d'abord chez 2-3 copains pour s'entraîner. Et puis après, en fait, on va... moi, je vais envoyer une centaine de mails à des distilleries, des restaurants, des entreprises, en disant, voilà, on a une caravane à cocktail, on est prêt à faire des drinks, est-ce que vous voulez pas nous engager ? Il y a une personne qui va nous répondre, et c'est la distillerie de BRC. Et donc, eux vont, pendant un premier été, nous envoyer partout. Donc, on va aller devant chez des cavistes proposer des cocktails avec les produits de la distillerie. On a des premières rémunérations. Valentin passe en indépendant complémentaire, puisque lui, à ce moment-là, il travaille à la cuve à bière. Et donc, en fait, avec les petits sous de tous nos événements, qu'on va garder précieusement, on va se mettre en recherche d'un bar en dur, d'un vrai bar. Et donc, chaque fois qu'on voit des endroits, on va un peu rêver. Je me souviens qu'on avait été visiter... il y a un truc qui s'appelle Paul's Boutique, des burgers, là, près des Pot-au-feu, près de chez Pépite.
Oui.
On avait été visiter ça, on a visité plein d'endroits, etc. Et puis, en fait, depuis 2 ans ou 3 ans, il y a ce vieux bar sur un coin dans cette rue des Brasseurs où personne ne passe, puisque c'est un coupe-gorge, qui s'appelle le Bailly. Et le bailli, avec ses petits losanges mauves cassés en vitrine, des déchets partout. Voilà, lui, le bailli est alloué pour rien. Mmh. Il n'y a plus de fonds de commerce depuis très longtemps. Il n'y a pas de contrat brasseur. En fait, il n'y a plus rien oui. dans cet endroit.
Mais je me souviens, cette rue-là était d'ailleurs... infréquentable. Enfin, voilà. Personne n'y allait. Enfin.
On allait chez Marc du Vino Vino, mm-hmm. par l'autre côté.
Oui, oui.
On allait, bien évidemment, au Temps des Cerises, mm-hmm. qui est une institution, mais donc les gens se déplacent pour ça, ah, et oui. donc plus par la rue du Pont. Et alors chez le chef Lequeux, donc, qui est parfum de cuisine, près du Match, mm-hmm. qui a sa clientèle aussi depuis 15-20 ans, qui est un chef de renom. Mais dans notre tronçon-là, il n'y a rien. En face, tout ce qui a été rénové ne l'est pas à ce moment-là. Ça tombe en ruine. C'est vraiment la catastrophe, quoi. Et personne ne met un pied après la place du Vieux.
Oui,
en plus, la place Maurice était un parking.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu l'enfer. Donc, ça nous permet, en fait, d'avoir un endroit qui ne coûte pas grand-chose et qui, en plus, à un moment donné, je peux négocier avec le propriétaire en disant bah, écoute, moi, ton truc, on va le rénover, mais tant que c'est pas ouvert, je paye pas de loyer. Je vais pas payer un loyer alors que je vais rénover et que je sais même pas si ça va fonctionner, quoi. Et de toute façon, c'est alloué depuis Mathieu Delhomme, donc, à prendre ou à laisser. Et donc, effectivement, il va nous laisser notre chance. Et pendant 7 mois, à coup de bac de bière, on va recevoir tous les copains et on va transformer l'endroit. Donc, on va enlever les sols, on va enlever les, il y a rien. Il faut imaginer que dans, la seule chose qu'on va garder, ce sont les poutres qui existent toujours. Normalement, ce sont des poutres avec des transversales, donc c'est un faux plafond comme un chalet alsacien. Et donc ça, on va les peindre en blanc et on va en garder 2-3 pour avoir une structure qui habille déjà en fait la pièce. Tout le reste va changer.
Waouh.
Voilà.
Et ça, c'est qui imagine, c'est toi?
Alors du coup, j'ai une copine à l'époque, Kat, qui est ultra douée et qui fait des aménagements de plateaux TV, etc. Mm-hmm. Et donc qui va, sur base de mes envies, de me structurer, de me dire, bah, voilà, écoute, chat, je pense qu'à un moment donné, ça, il faudrait peut-être voir ça comme ça, etc. Et en fait, après, c'est le papa de Valentin. Mm-hmm. Donc moi, je voulais dire, je veux cette couleur-là, je veux le granito de cette couleur-là, etc. Mais c'est le papa de Valentin qui va en fait nous mettre au travail. Et dire, voilà, ça, c'est comme ça qu'on met du J-Proc, c'est comme ça qu'on fort. Et tous les copains, on a, heureusement qu'on a plein de copains et qui adorent la bière. Et donc, on va tous construire ça ensemble. Ouais.
C'est bluffant parce que vous avez osé, alors que tout vous prédestinait à, ben, justement, que ce lieu ne soit pas forcément... Enfin, je trouve que cette rue, maintenant, a été tellement transformée, je pense, aussi par votre présence et la fréquentation de Botanical. Évidemment, il y a d'autres pépites dans la rue, mais je pense que, je sais pas, il y a eu une mouvance dans cette rue depuis quelques années.
Ben nous, on va louer et directement après, on apprend que la ville de Namur donne 4 000 ou 5 000 euros, je ne sais plus, à toute personne qui veut un endroit dans le bas de la ville. Mm-hmm. Et donc, c'était un truc qui s'appelait... je pense que c'est Go Namur maintenant, mais ça avait un autre nom à l'époque. Et donc, du coup, c'est pour soutenir justement ces quartiers qui sont désertés. Mm-hmm. Donc, ils font ça à Charleroi, ils font ça à Liège. Donc, nous, c'est 5 000 euros, c'est incroyable parce qu'on n'a rien. Quand on loue le Botanical, on a 20 euros sur notre compte. Donc, on va aller aussi un peu au bluff dans le sens que on va proposer un projet construit. Mais donc, du coup, tous nos partenaires, etc., on compte sur eux. Mm-hmm. Puisque, du coup, on va penser qu'en fait, que c'est presque déjà des acquis. Mm-hmm. Mais après, au niveau du design, au niveau de la qualité du business plan, au niveau de tout ce qui est structure, tout était extrêmement bien réfléchi. Mm-hmm. Mais voilà, on va aller voir un peu qui peut nous soutenir et ça va fonctionner. Et donc c'est grâce à toutes ces personnes qui nous entourent qu'on arrive à ouvrir. Mm-hmm. Grâce à cette aide précieuse, à ce moment-là, nous on est en travaux, t'as Manolo qui va ouvrir, t'as Sapristi.
Oui.
Puis petit à petit, tu vas avoir d'autres choses comme la petite cuisine. Bien des années après, tu vas avoir Petit Pays. Je pense que ça doit être 2021. Enfin, je m'avance pas sur les dates, mais par après, t'as Petit Pays qui va arriver. T'as Tapas Soif qui a été repris. T'as Cagette qui est extraordinaire avec des vins nature qui est assez récent. Et donc du coup, en fait, on va se retrouver avec que des concepts qui sont extraordinaires, qui sont des concepts de niche, avec des gens qui sont passionnés. Et donc, en fait, en plus, on se renvoie la balle sans arrêt. J'oublie Arsène, Arsène qui est un café que j'adore, Arsène avec des spectacles, avec des stand-up, avec une qualité de service qui est trop, trop bien. Et puis, t'as chez Juliette qui, sur la place aussi, va aussi beaucoup changer les choses. Et donc, en fait, on se renvoie, parce que moi, j'ai pas de bière, j'ai pas de vin. Donc, j'envoie des clients. On est tellement dans cette bonne entente que même en terrasse, pendant l'été, pardon, quand j'ai trop de monde, t'as Elena de l'Arsène qui me dit, ben voilà, j'ai une table qui s'est libérée, prends-la. Vas-y, qui donne sa table dans l'Oreca? Voilà, je vais la prendre pendant une heure, le temps que j'ai une table qui se dégage. Mm-hmm. C'est une entente cordiale et qui fait en fait que petit à petit, le fait qu'il y ait plein de concepts, les gens vont venir et passent leur soirée entière dans l'arrêt des Brasseurs. Et donc, d'où l'idée de s'exporter dans ce deuxième tronçon, qui a été extrêmement difficile au début parce qu'on va souffrir de travaux, de non-visibilité avec Licorette. Et donc, du coup, qui va vraiment avoir des débuts qui sont ultra difficiles par rapport au début flamboyant du Bota. Donc, ça te remet un peu en place aussi, toi, au niveau de ta personne. Donc, c'est pas parce que t'as un concept qui fonctionne que l'autre le fonctionne aussi. Et en fait, petit à petit, Licorette va avoir sa clientèle, va avoir plein de prix, va avoir vraiment cette énergie qu'on peut retrouver au Bota, qui existe maintenant à Licorette, mais il a fallu beaucoup de temps. Et qui vient se mettre à côté? D'abord, Morning Cycle, il y a quelque temps, donc des vélos. Donc, c'est trop bien parce que le dimanche, t'as des gens qui viennent boire un verre, qui réparent leur vélo à côté. T'as une petite esthéticienne qui est charmante. Et tout à côté, maintenant, t'as Petit Pays 2. Enfin, t'as 90 degrés. Donc, il y a un restaurant qui va être basé sur la cuisine régressive. Je veux dire, mais que de coups de chance, quoi.
C'est clair.
Donc, j'espère que jusqu'à la place Saint-Aubin, on va déborder de concepts. Et que,
je pense qu'il y a une mouvance à Namur, quand même, de renouveau et d'originalité. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu qu'il y a beaucoup de Bruxellois qui déménagent.
Oui, qui reviennent. Oui. On revient tous. On était tous partis parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Et on revient petit à petit.
On revient en tant qu'adulte plus mûr et
ouais, c'est moins cher et puis quand tu veux des enfants, t'as un peu plus d'espace, tu peux aller faire courir à la citadelle. Mais après voilà, tout ce pour en revenir au soutien de l'Oreca, tout ce que les gens font là dans cette rue-là, les gens ils sont autant dans la difficulté que nous. Mm-hmm. On est tous dans des difficultés qui sont énormes. D'ailleurs, elle va me tuer, mais j'ai oublié de mentionner le meilleur restaurant de la rue des Brasseurs, qui est Au Nuage, qui est ma belle-sœur.
Oui.
Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Ombline, qui est la pépite de la rue des Brasseurs, qui a ouvert pendant l'été et qui est à côté du Bota. Et donc, du coup, tous ces concepts-là doivent avoir un soutien. Mm-hmm. Parce que tout ce qu'on fait, on peut pas le faire bénévolement. Et donc, il faudra bien qu'à un moment donné, si on veut que ça continue, que cette émergence continue d'arriver, il faut qu'il y ait un soutien, quoi.
Surtout que j'imagine dans des villes comme Bruxelles, Namur et tout ça, il y a rien à faire. L'Oreca, ça amène aussi du tourisme. C'est une effervescence que les gens viennent chercher dans toutes ces villes. Et donc, ça, c'est...
Non, mais c'est... Moi, je dis pas du tout que les gens déplacent pour le botanical. Loin de là, l'idée est d'être orgueilleuse ou quoi que ce soit. Mais le week-end, il y a des fois, avec Tommy, on parle pas français. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est bourré de flamands. C'est bourré d'anglais, c'est bourré de hollandais. On a des Allemands, on a des gens qui viennent de partout. Et c'est des gens qui sont curieux parce qu'ils viennent passer un week-end à Namur, parce que du coup, Namur offre beaucoup d'attractivité. Maintenant, avec le téléphérique, avec toutes les activités qu'on peut avoir. On a aussi beaucoup de très bons restaurants. Quand tu vois les pot-au-feu que j'ai cités, Pépite, t'as l'air du temps dans ces restaurants gastronomiques. C'est des gens qui, à un moment donné, sont curieux de gastronomie, qui vont d'office faire un détour par le botanical, puisqu'il a cette petite parenthèse gastronomique aussi, on va dire. En fait, sans l'Oreca, les gens ne se déplacent pas non plus. C'est sûr. Les gens se déplacent parce qu'ils ont vu qu'il y avait un restaurant magnifique qui avait ouvert. Ils se déplacent parce qu'il y a des cocktails qui ont gagné un prix. Ils se déplacent parce que ce n'est pas juste les activités. C'est un tout, quoi.
Oui, c'est sûr que sans cette créativité, cette gastronomie, il y a moins d'attractivité au niveau...
Ouais.
C'est même pas touristique, mais même pas que, parce que même nous, en tant que Belges, il n'y a rien à faire. Il y a des endroits comme ça où on sait que, la rue des Brasseurs, on peut tout faire dans la rue des Brasseurs.
Ouais.
Et ailleurs à Namur, évidemment, mais Enfin voilà, c'est un peu.
Oui, et puis c'est par rapport à notre catégorie de nana aussi.
Oui.
Tu sais, on a plus de 30 ans, on a envie d'aller manger dans un bon resto, de boire un peu de vin nature. Mmh. Voilà, il y a aussi ça correspond bien, je pense, à notre âge et à notre catégorie de personnes. T'as envie d'acheter un super cadeau de l'artisanat, tu vas rue des Carmes.
Oui, oui.
Tu vas voir, il y a plein de concepts de. C'est trop bien. Donc chaque quartier a un peu son.
Son identité.
Voilà, son identité, et ça répond vraiment à des envies de chacun. La rue des Brasseurs s'adresse beaucoup moins aux plus jeunes.
Oui, 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 c'est sûr. Et dans tout votre quotidien, quels sont les ingrédients auxquels tu ne peux pas dire non pour t'épanouir, pour ton bien-être, même si j'imagine combien ça doit être difficile d'intégrer des petites choses juste pour soi, alors qu'on a, comme tu dis, ce mastodonte qui demande un temps infini.
Et ben, du coup, je vais essayer de créer des petits moments spéciaux. Donc, par exemple, avec Valentin, on a des règles. Hein. Donc, on essaie de pas se parler des cotisations sociales de la TVA à partir de 22 heures, si on est à la maison. Ce qui est déjà assez rare d'être 22 heures à la maison, mais on va essayer, en tout cas, de protéger notre vie de couple. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que moi, j'aime bien faire des petites fuites. Par exemple, j'ai deux journées. Donc, je commence ma journée. En général, je pars de chez moi vers 10h. J'arrive au barré 10h30, 11h. Donc, ça va être la journée mail, la journée admin, la journée com, la journée organisation, course, tout ce que tu veux. Et après, la deuxième journée commence à 17h avec la mise en service jusqu'à la fin. Mm-hmm. Même si je fais pas le service tous les soirs, je vais être en tout cas en activité jusqu'à la fin. Entre les deux, entre mes deux journées, si j'ai l'occasion, je peux filer au Caméo. Là, j'ai été voir Poor Things avec Emma Stone il y a quelques semaines. J'ai filé, j'ai fait mon service en ne sachant plus comment me tenir parce que j'imitais Emma Stone. Tu vois. donc, j'essaie de faire ça. J'essaie de filer à la salle de temps en temps. Ça, c'est très nouveau. J'ai jamais fait de sport de ma vie. Je suis est-ce qu'on pourrait dire en bruxellois, une clète en sport. J'essaye de le faire justement pour me décharger au niveau puisque du coup la tension est de pire en pire au niveau pression, au niveau facture, etc. Même si on s'en sort, hein, mais c'est assez compliqué à tenir comme stress et à être sous pression comme ça et à l'accepter. Et donc du coup ça c'est un peu mes nouveaux trucs. Ça fait trois quatre mois, je pense que je vais à la salle et je vais juste courir sur mon tapis en écoutant de la philosophie. C'est des trucs qui me font beaucoup de bien. Après on a de la chance, on a Stella qui est juste en dessous du bureau, qui nous permet d'aller marcher, d'aller courir. Et alors du coup aussi dès qu'on part à l'étranger pour le travail, on essaye, pas à chaque fois mais en tout cas au maximum, on se fait un musée. On est tous les deux passionnés de musées. Valentin est passionné d'histoire. Moi, je suis passionnée d'histoire de l'art. Et donc, ça, c'est des choses qu'on met à chaque fois en place, où on souffle, tu vois. On a aussi pas mal de tactiques, puisqu'on a un téléphone pour deux. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de téléphone. Ce qui me permet de pas avoir de stress par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux demandes de mails. Je balance le téléphone pendant une journée complète et je me retrouve un peu libre.
Et c'est Valentin qui gère ou?
Alors non, parce qu'il a du mal à ouvrir Instagram ou à part pour regarder les mèmes. mais il l'a, comme ça, s'il y a un appel, s'il y a un truc, il l'a. Lui, il est en train de créer de toute façon des cocktails parce qu'on part à Copenhague vendredi. Donc il a besoin de rester en contact avec tout le monde. Donc là, aujourd'hui, il est sous pression, une vraie cocotte minute. Et moi, je suis la journée sans téléphone.
Ce qui est un luxe. Incroyable, je trouve.
Exactement. Donc voilà. Donc c'est pour ma santé mentale. Mm-hmm. Et parce que du coup, j'en ai besoin. Mm-hmm. Voilà. Donc on lit tous les deux énormément. Donc on a vraiment ce truc. Dès qu'on est à l'étranger, on se fait un musée. On essaye de se structurer dans notre vie de couple, de pas parler de notre entreprise le soir, de beaucoup lire. Mm-hmm. De tout ce qui est réseaux sociaux ne nous impacte pas, on n'est pas stressé par rapport à ça, on n'a jamais regardé les statistiques, on n'a jamais regardé le nombre de likes, c'est des choses qui nous passent un peu au-dessus. Tout ce qu'il faut, c'est que le bota soit rempli et que les corrects soient remplis. Pour le reste, il y a pas trop de soucis, mais par contre, c'est cette demande permanente de où se trouve ceci, est-ce que tu as vu ce mail là, est-ce que machin. Donc ce téléphone rassemble en fait un peu le cauchemar en device. Et donc du coup, ça c'est vraiment tous nos petits moyens. Donc il y a pas vraiment de routine mise en place pour survivre. Mais il y a plein de tactiques qui fonctionnent quand même assez bien. Et puis, il n'y a rien à faire, il faut être aussi un peu honnête, c'est qu'on adore travailler.
Votre duo rassemble beaucoup de talents. et est très complémentaire. Est-ce que vous avez découvert ça au fur et à mesure, ou est-ce que c'est chacun son terrain de jeu?
Alors, il n'y avait pas, c'était pas prémédité du tout. La seule chose qu'on avait fait, c'est qu'on avait travaillé ensemble dans une brasserie éphémère à Namur, entre la Sambre et la Meuse. Il y avait une brasserie à l'époque sous une tente là. Mmh. Et on a travaillé là pendant quelques mois avec Valentin, je dirais peut-être 6 mois. Et donc du coup, moi, je faisais le bar parce que c'est des rhum coca et que j'avais fait ça toute ma vie avant dans l'Oreca. Et lui, il faisait le service parce que du coup, comme il venait de la place du Vieux, il savait enchaîner je sais pas combien de verres sur un plateau, ce qui est quand même assez impressionnant. Et donc ça, c'était la seule structure. C'était d'abord, est-ce qu'on sait travailler ensemble? Mm-hmm. Donc ça, on s'est posé la question, on s'est testé maintes et maintes fois. On savait très bien que tout ce qui était administratif, réponse de mail, etc., c'est moi qui allais faire. Par contre, tout ce qui était contenu, photo, etc., c'était plus Valentin, parce que Valentin, il a vraiment un talent au niveau photographique, qu'il n'utilise plus du tout, qu'il n'intéresse plus du tout, parce qu'il change aussi de passion assez rapidement. Mais à la base, c'était ça. C'était en fait, moi, je faisais les photos, mais sous son aile, avec sa structure, avec ses recommandations. Et puis moi, je faisais les textes, lui faisait les recettes, etc. Donc ça, c'est des choses qui se sont mises en place naturellement. Mmh. Maintenant, on va tout le temps se rechercher l'un et l'autre. Par exemple, si je fais un texte spontané, j'essaie d'intercepter Valentin, je dis « lis un peu ». Il lit, il me dit « poste pas, trop long, trop pas long, papapapap », tu vois. Mmh. Bon, il dit, des fois, il dit qu'il lit, il a pas vraiment lu, mais... et chaque cocktail qui sort... C'est chat, tu viens, tu goûtes, qu'est-ce que t'en penses? Donc moi, je suis toujours son juge maléfique et il est mon juge bénéfique parce qu'il est toujours gentil avec moi, que moi, je suis jamais contente. Mais donc voilà, donc cette structure est arrivée. On a recherché une structure tous les deux qui était naturelle en se disant d'abord, est-ce qu'on sait travailler ensemble? On a chacun des talents, est-ce qu'on les mettrait pas ensemble? D'office, l'écriture, c'était pas lui. D'office, la réponse administrative, c'était pas lui. D'office, le contenu créatif, c'était lui. Mm-hmm. Donc ça a été vraiment la base. Maintenant, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mis de façon spontanée, mais fonctionne très bien. Par exemple, au niveau gestion de l'entreprise, moi, donc, je vais recevoir tout ce qui est facture, faire des suivis, etc., mais je ne paye jamais une facture. Pourquoi? Parce que du coup, comme tu as une facture à 30 jours et que souvent tu as un client qui, toi, t'as pas payé pendant les 3 derniers mois et qui est en retard, tu es toujours en retard sur tout.
Oui.
Parce que tu vis presque à crédit, en fait, quand tu fais de l'Oreca. Valentin a la capacité de payer le 29e jour. Que moi, je reçois une facture, je pourrais m'endetter pour que ce soit fait et que je puisse dormir la nuit. Et donc, en fait, moi, je gère toute cette gestion. Je sais ce qui est payé, ce qui n'est pas payé. Tout est classé. Tout est, parce que je fais aussi tout là, ce qui est TVA. Donc, du coup, tout est là. Mais le moment pour appuyer pour le bouton pour que l'envoi se fasse, c'est Valentin qui le fait. Ça, c'est des nouvelles choses, par exemple. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on a chacun notre catégorie de travail.
Et vos forces et vous vous préservez aussi, finalement, un petit peu.
Voilà, exactement. Voilà.
Et je trouve que tu as un talent pour la convivialité. Quand on rentre dans vos bars, tu es une correcte aussi. Et comment se traduit-elle chez toi si tu reçois de temps en temps? Et quel est ce petit twist que tu apportes ou que tu veux apporter à chaque client?
Bah alors du coup, à la maison, avant d'avoir le Botta, on faisait énormément de dîners. On fait toujours des dîners, mais ils sont de plus en plus rares parce qu'on n'a pas le temps. Mais il faut qu'imaginer que les dîners, c'est 15 personnes ou 10 personnes avec des menus 7 services où Valentin cuisinait. Moi, je faisais la déco de la table. Et donc, du coup, voilà, tout était plus ou moins prêt pour que quand les gens arrivent, Valentin passe toute sa soirée en cuisine. Donc, les gens qui veulent parler avec Valentin, ils se mettent un verre de vin, ils s'assoient sur la table, plan de travail, que sais-je. Et il reste avec lui. Et donc, on allait jongler comme ça. Donc, naturellement, j'adore parler de ce que Valentin fait. Donc, naturellement, j'ai envie que tu comprennes ce qu'il a fait. J'ai envie que tu aimes. J'adore tout ce qui est déco. Donc, la maison a toujours été un peu avec plein de trucs chinés. Voilà, j'ai toujours essayé de toujours créer des atmosphères. Quand on faisait des fêtes avec les potes, quand on faisait Halloween chaque année, c'est toujours été, tout était décoré. Donc, je pense qu'on a un truc... pour recevoir parce qu'on aime bien et en fait on a juste déplacé cette qualité dans nos bars. Donc en fait on a un service qui est sous pression, puisque du coup, on a des verres qui sont, des cocktails qui sont en 4 degrés, qui, avec des températures qui sont gérées, avec toute une sélection de verres qui est refroidie, enfin voilà. Donc, tu connais le bar, hein, c'est quand même, pour moi, un service de haut niveau, mais avec tout ce qu'on a toujours fait à la maison. Donc, je te reçois parce que j'ai envie de t'expliquer ce qu'on fait. J'ai envie que ce soit joli, j'ai envie que ce soit propre. Donc, en fait, ouais, je pense que j'ai juste étendu cette envie, en fait, de bien recevoir. Et je le fais exactement de la même manière qu'on soit à la maison ou qu'on soit dans les bars. C'est la même chose.
Et ça se ressent beaucoup. Et je trouve que, oui, on sent que tu veux partager, mais aussi que, je sais pas, tu nous accueilles effectivement comme chez toi. On passe la porte et... On est bien reçu.
Après, c'est chez moi, tu vois. Je veux dire, comme on a tout fait, comme on a fait de la moindre peinture, la moindre table, comme tout nous appartient et que tout est fait avec les mains, bah forcément, tu t'es pas étranger à ça. Donc, t'as envie de le dire. Mm-hmm. T'as envie de le dire. Tu sais, la serre, c'est Valentin et moi, on l'a dessinée. Mm-hmm. Tu vois. Et donc voilà, on est chez nous, en fait. On est chez nous. C'est un endroit qui nous appartient dans le sens pas les murs nous appartiennent pas, mais le concept nous appartient, c'est vraiment ce qu'on a créé à deux. Et donc, j'ai envie que tu comprennes, que tu te sentes bien, que tu te sentes pas... Tu sais, quand tu rentres des fois dans des bars à cocktails, que t'es un peu impressionné. Tu sais, moi, personne ne pense parce que du coup, je parle beaucoup, etc. Mais je suis vite impressionnée, tu vois. Mm-hmm. Donc, je suis là, je m'assieds, je suis avec mon petit verre d'eau. Oh, c'est chouette, c'est joli. J'ai peur que de renverser ou... Enfin, tu vois.
Oui.
Donc, j'ai pas du tout envie que ce soit comme ça au Bota. J'ai envie que les gens se disent, mais en fait, trop cool. Et à Licorette, c'est vachement la plus la bonne franquette, parce que c'est de la nourriture et que en plus nous, on n'est pas chef hein, du tout. Et ben, c'est à un moment donné, comme on est déjà tellement sous pression au Bota, quand t'es à Licorette, c'est si jamais le sel il est là-bas, tu te lèves, tu vas chercher avec un sourire, comme à la maison,
comme avec des amis, quoi.
Exactement. Oui. Donc voilà. Et donc voilà, il a fallu quand même mettre des choses un peu au clair, parce que sinon, très vite, t'as tous tes clients qui t'embrassent et qui deviennent tes amis.
Oui.
Et c'est quelque chose que je voulais pas. Mm-hmm. Pas que j'ai assez d'amis, hein, loin de là, mais j'avais besoin aussi de me protéger moi. Mm-hmm. Et je trouve qu'on partage déjà tellement sur les réseaux, on partage déjà tellement sur place que je voulais pas. Parce qu'après, les premières semaines, c'était des gens qui disaient, j'ai trop aimé, venez boire une fois un verre à la maison.
Mm-hmm.
Et donc ça, c'est des choses qu'il a fallu apprendre à gérer aussi. Mais non, en fait, j'ai envie que les gens viennent chez nous, qu'ils passent un moment, qu'ils soient un peu hors du temps. En fait, c'est ça l'Horeca, je pense. C'est ça l'hospitalité.
Oui, oui.
C'est dans un endroit où on se sent bien, où on peut mettre un peu nos problèmes à la porte et avoir un endroit où on existe un peu sans pression, quoi.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, au début, évidemment, le Botanical, mais maintenant peut-être Licorette, quoique peut-être moins, c'est ta scène, c'est ton théâtre et... qu'il y a toute une mise en scène autour de Botanical et que bah, vous vous amusez, enfin, pas en tant qu'acteur, mais que vraiment, vous vous amusez, vous éclatez.
Ah ouais, bah, alors du coup, c'est très marrant que tu dises ça, parce que du coup, moi, j'ai toujours mis en lien le fait que les gens qui font du bar, c'est souvent des acteurs ratés, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire nos études en art dramatique, j'en sais rien. Mais quand moi, j'étais au Delirium, quand j'étais toute jeune, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais c'était ça, hein. Moi, j'arrivais à 17h, je devenais complètement différente, hein. Enfin, j'étais toujours moi, j'étais pas différente, mais j'avais plus du tout aucune timidité, je pouvais répondre de façon du tac au tac, je pouvais faire rire, je pouvais avoir un pourboire, je créais une ambiance. Et donc, du coup, c'est un peu comme si tu lâchais une épidémie de bonne humeur.
Mm-hmm.
C'est toi qui gères l'atmosphère, c'est toi qui gères l'ambiance. Et donc du coup, moi ça me confortait, moi qui avais toujours un peu rêvé de faire du théâtre, d'avoir ce côté créa, etc. Ben c'était vraiment monter sur scène. D'ailleurs, tu montes sur une estrade quand t'es dans un bar, tu vois. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment portée pendant des années. Puis en plus, après, par rapport à mes études, où j'ai perdu à un moment donné l'occasion de parler oralement en toute sérénité, en étant stressée pour le moindre mot qui sortait de ma bouche, eh ben, les premiers jours au Bota, je m'asseyais avec les gens et je me mettais à genoux. Tu vois, quand tu viens à Botanical, souvent, ben, je me mets à côté de toi. Et ça, c'est venu naturellement parce que du coup, j'étais terrorisée les premières heures parce que comme je savais plus parler, plutôt que de me mettre en hauteur et dire ben voilà, bienvenue au Botanical, on est un bar à cocktail, blablabla, je me mettais à côté de la personne à genoux. Et oui, ben alors voilà, on a un petit bar à cocktail. Puis je me mettais à côté de la personne. Oui, alors, bienvenue, voilà ce qu'on fait. Donc, ça a été un peu mon moyen de récupérer ma confiance en moi. Ça a été un moyen de reparler aux gens en les regardant dans les yeux sans être terrorisée. Et de retrouver, en fait, tout ce que j'avais de façon innée. C'était quelque chose qui faisait vraiment partie de moi, que j'avais perdu, quoi. Donc, le botanical m'a apporté énormément à ce niveau-là. Et alors, du coup, maintenant, c'est plus du tout une scène. Il m'a aidé à me retrouver complètement moi. Donc, en fait, au botanical, je ne suis plus sur ce personnage. Le botanical, c'est comme c'est chez moi. Mm-hmm. Je suis parfaitement moi. Et je peux totalement l'être. Sans avoir peur de dire non, sans avoir peur de dire oui, sans avoir peur justement de... J'ai plus du tout de théâtre à jouer. Parce que je suis parfaitement en sécurité. Mm-hmm. Donc, je connais le moindre recoin. Je suis parfaitement ancrée. Je suis stable. Et donc, en fait, ce bar m'a permis de me retrouver moi, de retrouver mon aisance communicationnelle, de retrouver ma sérénité. Je suis devenue une femme accomplie parce que le Bota m'a redonné toute ma confiance.
Quelle évolution.
Ouais, merci le Bota. Hein.
Vous avez créé ce que vous vouliez, finalement. Et ça t'a permis de t'épanouir et de grandir. Enfin, c'est merveilleux. Et je trouve justement, j'ai l'impression, même sur les réseaux, tu prends ta place, on te voit plus, tu t'affiches plus. Et c'est gay parce qu'on voit vos visages, on les voyait aussi avant, mais là, vraiment, on sent qu'il y a, je sais pas, quelqu'un de encore plus ancré qui
mais c'est comme je te dis, à chacune des interviews, les premières années, j'en ai fait aucune. On en a deux, trois au tout début où t'as Bouquet, mais qui s'appelait Canal C, je pense, ou quelque chose comme ça. À l'époque, qui vient et tu me vois derrière. Oui, mais si jamais c'est artisanal, ce qu'on fait. Et là, et ma voix est pas pareille, mon visage est pas pareil parce que je suis terrorisée. Et donc, du coup, le fait d'écrire me permettait de porter mon mari, porter mon projet. Je porte toujours autant mon mari. Beaucoup de gens me posaient la question, ça t'embête pas que ce soit toujours Valentin qui soit un peu reconnu quand on va à l'étranger de ça? J'en suis terriblement fière, ça me pose aucun problème. J'ai pas du tout envie de me mettre en avant. Mais dans mes retrouvailles avec moi-même, comme tu dis, c'est que tu suis bien la page, puisque c'est les premières fois de ma vie que j'écris en jeu, de temps en temps, où j'expose les problèmes de l'oreca, où j'expose moi mes pensées plus personnelles. Et donc du coup, ouais, j'ai toujours eu ma place. J'ai toujours eu cette place puisque c'est mon bar et que c'est mon entreprise. Et je me suis jamais sentie en déficit par rapport à ça ou quoi que ce soit. Mais je prends un peu plus de place. Je commence à prendre plus de place parce que je me retrouve, quoi. Il aura fallu des années, mais salut, c'est moi.
Non, mais je trouve que c'est important aussi de prendre sa place, justement, dans votre couple. Enfin, avec Valentin, tu l'as mis beaucoup au devant de la scène, mais derrière, finalement, ces trois établissements, enfin deux plus un
mobile.
vous êtes deux.
Ouais.
Et donc, c'est important aussi que finalement, tu retrouves cette place.
Ouais. Et c'est aussi grâce à Valentin parce que c'est toujours Valentin. Donc, Valentin crée tous les cocktails. Il crée toutes les cartes. C'est un cerveau extraordinaire, Valentin. Mais tu ne verras jamais une interview ou une personne où il ne dit pas « on ».
Oui.
J'ai un mari qui est quand même... Enfin, en tout cas, au niveau déjà personnel, Valentin, et je ne lui ai jamais dit « oui, tu diras « on ». C'est des choses qu'il fait totalement naturellement. Il aurait pu très bien dire « oui, voilà, avec ma femme, on a une entreprise. Moi, je fais les cocktails et elle fait la com. » Ou elle fait la salle. Jamais, tu ne trouveras jamais une trace. Valentin dit toujours, alors on fait les cocktails, on crée ensemble, on fait des cartes. Et je lui ai jamais demandé des choses qui sont... Parce que Valentin est terriblement amoureux de sa femme, je pense, également. Parce qu'on crée tout à deux, même si lui, il a ses particularités, que moi, j'ai les miennes. Mes textes ne seraient pas mes textes si j'avais pas Valentin. Peut-être que ses cocktails ne seraient pas ses cocktails s'il m'avait pas moi. Et donc, du coup, lui m'a redonné ma confiance aussi. Il m'a toujours porté, il m'a toujours mis en avant. Toutes les interviews qui sont uniquement axées sur Valentin et sur sa profession de bartender, donc qui sont en dehors de Botanical ou en dehors de l'entreprise Alphonse, qui sont vraiment axées uniquement sur le bartending, sur 4 ou 5 fois sur l'interview, Valentin va dire oui, mais c'est grâce à ma femme qui est juste à côté, ou c'est grâce de façon humoristique, de façon sérieuse. À tout moment, il m'a toujours portée, il m'a toujours mise en avant aussi. Et donc, il n'y a jamais eu ce moment où je n'avais pas ma place dans l'entreprise, où j'avais moins de place. J'ai toujours eu autant de place. Mais je m'affiche plus.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que... Mais on dit souvent qu'un homme... Enfin, je ne sais plus exactement cette phrase, mais que derrière un homme, il y a toujours une femme.
Ouais.
Et inversement, parce qu'on mutuellement, on s'apporte tellement dans un couple. Et parfois, il n'y a pas forcément besoin d'être en couple, mais il y a toujours quand même une personne ressource qui nous renvoie à certaines choses, qui fait qu'on se questionne plus ou qu'on ose plus, qui nous porte. Enfin, je trouve que c'est...
Ouais, lui, il va toujours me temporiser. Mm-hmm. Moi, je vais toujours l'obliger à aller jusqu'au bout. C'est comme ça, un créatif, il pourrait très bien commencer à faire plein de créations, partir dans tous les sens, et puis s'arrêter, puis partir sur autre chose. Sauf que moi, je ne supportais pas. Donc, si tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout.
Ouais.
Je serais incapable de le faire si je n'étais pas là. Moi, je serais incapable de temporiser, tu vois, ou de faire face à l'échec. Comme je disais avec la petite caravane, on nous avait refusé Charlie Ennemi, le premier bar. Moi, j'aurais bien arrêté là.
Mm-hmm.
Je fais, ah ben, on a refusé, on n'aura pas... Eh ben, c'est pas grave, je n'aurai jamais de bar. J'aurais pu penser comme
oui,
ça.
Oui. Là, il t'a donné la niaque de...
Oui.
Non.
Et en fait, maintenant, on a plein d'obstacles, on a plein d'échecs, on a plein de choses qu'on crée qui ne verront jamais le jour.
Mm-hmm.
Mais c'est comme ça. Et donc, d'échec en échec, ça nous amène d'autres choses. Et avoir un échec, c'est pas du tout une honte. Mais moi j'étais totalement différente de lui par rapport à cette vision-là. Donc, oui, on s'apporte tous les deux énormément. Il n'y aurait rien de Valentin si Chat n'était pas là. C'est ce que tous nos copains disent toujours, parce que c'est cette vision-là, avec moi le tyran derrière qui l'oblige à faire des trucs, et lui qui part dans tous les sens. Mais c'est pas du tout vrai.
Mm-hmm.
La vérité, c'est qu'il n'y aurait rien du tout.
Oui, ni l'un, ni pour l'un, ni pour l'autre.
Exactement. Ouais, ça, c'est
riche d'être à deux. Ben, écoute, un tout grand merci pour
merci
ton partage, ta générosité. C'était une très, très belle discussion.
Ben, merci à toi de m'avoir reçue. C'était cool. J'espère que je n'ai pas trop parlé, parce que je parle beaucoup. Au pire, tu pourras couper. Je trouve ça trop intéressant, puisque tu reçoives... que tu reçoives des gens qui sont passionnés, qui sont inspirants, c'est trop bien de les faire partager. Donc, merci encore à toi.
Avec grand plaisir.